Chapitre 14. Ce n'est pas sans les plus grands périls, sans des peines infinies, que Gaston de Clamoran, en quittant Valentine, avait réussi à fuir. Jamais, sans le dévouement et l'expérience de son guide, le père Menoul, il n'aurait trouvé le moyen de s'embarquer. Ayant laissé à Valentine les parures de sa mère, il possédait pour toute fortune 920 francs, et ce n'est pas avec cette pauvre somme qu'un fugitif qui vient de tuer deux hommes fait son passage à bord d'un bâtiment. Mais Menoul, vieux matelot, était homme d'expédient. Pendant que Gaston restait caché dans une ferme de la Camargue, Menoul avait gagné Marseille, et dès le premier soir, courant les cabarets que fréquentent les matelots, il avait appris qu'il se trouvait en rade un trois-mâts américain dont le commandant M. Worth, un marin sans préjugés, se ferait un vrai plaisir de donner asile à un gaillard solide qui lui serait utile à la mer sans s'inquiéter de ses antécédents. Ayant visité le navire et bu un verre de rhum avec le capitaine, le père Menoul était revenu trouver Gaston. « S'il s'agissait de moi, lui dit-il, j'aurais bon affaire, mais vous... »« Oh, ce qui vous conviendrait me convient. C'est que, voyez-vous, il vous faudra trimer dur. Vous serez matelot, quoi, et pour tout dire, le bateau m'a pas l'air des plus catholiques et le patron me fait l'effet d'un fier sacripant. »« Oh, il n'y a pas à choisir, répondit Gaston, partons. » Le flair du père Menoul ne l'avait pas trompé. Il suffit à Gaston d'un séjour de 48 heures à bord du Tom Jones pour être sûr à n'en point douter que le hasard venait de le jeter au milieu d'une remarquable collection de bandits de la pire espèce. L'équipage, recruté un peu partout, était comme un échantillon de coquins de tous les pays. Mais que lui importaient ces gens parmi lesquels il était condamné à vivre pendant des mois ? C'est son corps seul que le navire emportait vers des pays nouveaux. Sa libre pensée se reposait sous les frais ombrages du parc de la Verberie, près de sa bien-aimée Valentine. Qu'allait-elle devenir, la pauvre enfant, maintenant qu'il ne serait plus là pour l'aimer, pour la consoler, pour la défendre ? Heureusement, il n'avait ni le loisir ni la force de réfléchir. Ce qu'il y avait de plus affreux dans sa situation présente, il ne le sentait pas. Obligé au rude apprentissage du métier de matelot, il n'avait pas trop de toute son énergie pour résister à des labeurs exorbitants, pour qui n'en a pas, dès l'enfance, contracté l'habitude. Là fut son salut. La fatigue physique calmait et engourdissait les douleurs morales. Aux heures de repos, lorsque, brisé, rompu, il lui était permis de s'étendre sur son cadre, il s'endormait. Si parfois, avec une anxiété poignante, il s'efforçait d'interroger l'avenir, c'était aux heures de quart, la nuit, quand le temps était beau et que la voilure ne réclamait aucune manœuvre. Il avait juré qu'il reviendrait avant 3 ans, et qu'il reviendrait riche pour satisfaire les exigences de Madame de la Verberie. Pourrait-il tenir cette promesse présomptueuse ? Si le désir a des ailes, la réalité se traîne lentement, terre à terre. Or, d'après tout ce qu'il entendait dire autour de lui, il n'était pas précisément sur le chemin de cette fortune tant souhaitée. Le Tom Jones faisait peut-être voile pour Valparaiso, mais il prenait à coup sûr pour y arriver le chemin le plus long. C'est que le capitaine Worth se proposait de visiter le golfe de Guinée. Un prince noir de ses amis, disait-il en riant d'un large rire, l'attendait dans les environs de Badagry pour lui confier, en échange de quelques pipes de rhum et d'une centaine de méchants fusils à pierre, toute une cargaison de bois d'ébène. Pour tout dire, Gaston de Clamoran servait en qualité de novice sur un de ces navires, comme on armait alors, par centaines tous les ans, la libre et philanthrope Amérique pour la traite des Noirs. Cette découverte emplit Gaston de colère et de honte, mais il fut assez sage pour dissimuler ses impressions. Toute son éloquence n'aurait pu dégoûter le digne capitaine Worth d'un trafic dont les profits dépassaient 100%, en dépit des croiseurs français et anglais, malgré les avaries de la cargaison et une foule d'autres risques encore. Si les hommes de l'équipage avaient pour Gaston une considération relative, c'est que l'histoire des coups de couteau racontés par le père Menoul au capitaine avait transpiré. Laisser voir ses opinions, c'était se créer sans nécessité ni utilité une situation impossible. Il se tut, jurant bien qu'il désenterrait dès que se présenterait une occasion à peu près favorable. Le malheur, c'est que cette occasion, comme tout ce qu'on attend avec impatience, ne venait pas. Et c'est qu'au bout de 3 mois, M. Worth ne pouvait plus se passer de Gaston. Lui ayant reconnu une intelligence supérieure, il l'avait prise en amitié, il le faisait manger à sa table, il avait à l'entendre causer un plaisir infini, il le forçait à faire sa partie de piquet. Si bien que le second du navire étant venu à mourir, Gaston fut choisi pour le remplacer. Et c'est en cette qualité qu'il fit 2 voyages successifs au golfe de Guinée. C'est comme second qu'il aida à enlever 1 millier de nègres en 2 fois, à les arrimer, à les surveiller pendant une traversée de 1200 ou 1500 lieues, et enfin à les jeter clandestinement sur les côtes du Brésil. Et il y avait plus de 3 ans que Gaston s'était embarqué à Marseille, lorsqu'enfin le Tom Jones s'ayant relâché à Rio de Janeiro, il put se séparer du capitaine Worth, un digne homme après tout, et qui jamais ne se serait résigné à ce diabolique et répugnant commerce de chair humaine sans sa petite Mary, un ange qu'il voulait doter magnifiquement. Ces voyages avaient au moins profité à Gaston. Il possédait tout près de 12 000 livres d'économie lorsqu'il toucha le sol du Brésil. Cependant, les 3 ans fixés par lui-même pour son retour étaient passés. Mais peut-être Valentine l'avait-elle attendu. Avant de rien entreprendre, il écrivit à un de ses amis, en qui il pouvait avoir toute confiance et qui habitait Beaucaire. Il avait soif de nouvelles de son pays, de sa famille, de ses amis. Il écrivit aussi à son père, auquel il avait essayé toutes les fois qu'il en avait trouvé l'occasion de faire parvenir des lettres. Ce n'est que l'année suivante qu'il reçut une réponse de son ami. Du même coup, cette réponse lui apprenait que son père était mort, que son frère Louis avait quitté le pays, que Valentine était mariée, et enfin que lui, Gaston, il avait été condamné à plusieurs années de prison pour meurtre. Cette lettre l'atterra. Désormais, il était seul au monde, sans patrie, déshonoré par un jugement. Valentine mariée, il ne voyait plus de but à sa vie. Mais il n'était pas homme à se laisser abattre. « Gagnons donc de l'argent, s'écria-t-il avec rage, puisqu'il n'y a que l'argent ici-bas qui ne trompe jamais. » Et il se mit à l'œuvre avec une âpre activité, fouetté chaque matin par une volonté nouvelle. Tous les moyens de fortune qu'offre aux aventureux l'Empire du Brésil, Gaston les tenta. Tour à tour, il spécula sur les pots, il exploita une mine, il tenta des défrichements. 5 fois, il se coucha riche et se réveilla ruiné. 5 fois, avec la patience du castor dont le courant emporte la hutte, il recommença l'édifice de sa fortune. Enfin, après de longues, bien longues années de lutte, il possédait près 1 million réalisables et de vastes étendues de terrain. Il s'était dit que jamais il ne quitterait le Brésil, qu'il finirait ses jours à Rio. Il comptait, sans cet amour du sol natal, qui jamais ne s'éteint dans le cœur d'un Français. Riche, il voulut mourir en France. Aussitôt, il fit les démarches indiquées par sa situation. Il s'assura que, rentrant, il ne serait pas inquiété, réalisa ce qu'il put de son avoir, confia le reste à un correspondant et s'embarqua. Il y avait 23 ans et 4 mois qu'il avait fui, lorsque par un beau jour de janvier 1866, il mit le pied sur les quais de Bordeaux. Il était parti jeune homme, le cœur gonflé d'espérance. Il revenait avec des cheveux blancs, ne croyant plus à rien. Une usine était à vendre près d'Oloron, sur les bords du Gave. Il l'acheta, songeant à trouver un moyen pour utiliser les immenses quantités de bois qui, faute de moyens de transport, se perdent dans les montagnes. Il était installé depuis quelques semaines déjà, lorsqu'un soir, son domestique lui remit la carte d'un étranger qui désirait le voir. Il prit cette carte et lut « Louis de Clamoran ».« Mon frère ! » s'écria-t-il enfin. « Mon frère !» Et laissant là son domestique, tout ébahi, quelque peu effaré même de l'exaltation de son maître, il se lança dans les escaliers. Au milieu du vestibule, un homme, Louis de Clamoran, se tenait debout, attendant. Gaston se précipita vers lui, et après l'avoir serré entre ses bras à l'étouffer, il l'entraîna, ou plutôt il l'emporta dans le salon. Là, il le fit asseoir, s'asseyant lui-même en face le plus près possible, pour le mieux voir, pour le contempler plus à l'aise. Il lui avait pris les deux mains et les gardait dans les siennes. « C'est toi !» répétait-il, parlant très haut comme pour mieux s'entendre, pour se bien prouver à réalité. « Oh, c'est toi, mon bien-aimé Louis, mon frère !»« Toi, mais c'est toi !» Gaston, cet homme dont la vie avait été comme une continuelle tempête, ne se possédait plus. Lui, l'aventurier, le second du redoutable capitaine Worth, le chercheur d'or des mines de Villarrica, ils pleuraient et riaient tout ensemble. « Oh, je t'aurais reconnu, » disait-il à son frère. « Oui, oui, je t'aurais reconnu. » « Bah, oh, l'expression de ton visage n'a pas changé. Tu as bien le même regard. Ton sourire est toujours ce qu'il était jadis. » Louis souriait, en effet, peut-être comme il avait souri cette nuit fatale où la chute de son cheval avait livré Gaston. Il souriait, lui aussi. Il avait l'air heureux. Il paraissait ravi. Une de ses angoisses à faire blanchir les cheveux d'un homme le pénétrait lorsqu'il avait soulevé le marteau de la porte de Gaston. Ses dents claquaient de peur lorsqu'il avait dit au domestique en lui tendant sa carte « Portez ceci à votre maître. » Et en attendant le retour de ce domestique, dont l'absence lui avait paru durer des siècles, il se disait « Est-ce bien lui ? Et si c'est lui, sait-il, se doute-t-il ? » Si grande était son anxiété qu'au moment où il avait aperçu Gaston descendant l'escalier avec la rapidité de l'ouragan, il avait eu la tentation de fuir. Maintenant qu'il voyait bien que Gaston était resté le même, bon, confiant, crédule, maintenant qu'il était presque certain que pas un soupçon n'avait effleuré l'esprit de son frère, il se rassurait, il souriait. « Enfin, poursuivait Gaston, je ne serai donc plus seul dans la vie. J'aurai quelqu'un à aimer, quelqu'un qui m'aimera. » Il s'interrompit, puis brusquement, avec cette incohérence d'idées de toutes les émotions fortes qui rompent l'équilibre du cerveau. « Es-tu marié ? » interrogea-t-il. « Non. »« Tant pis, oui, tant pis. » « J'aurais voulu te voir, le mari de quelque bonne femme bien dévouée. Je voudrais te savoir, père de braves et beaux enfants. Comme j'aurais ouvert mon cœur à deux battants, à tout ce monde-là, ta famille aurait été la mienne. Cela était si bon, la famille, si doux. Vivre seul, sans une femme adorée qui partage les tristesses et les joies, les épreuves et les succès, ce n'est pas vivre. N'avoir à penser qu'à soi, quelle tristesse. Mais qu'est-ce que je dis là? Je t'ai, n'est-ce donc pas assez? Oh Louis, j'ai donc un frère, un ami, avec qui je puis causer tout haut, comme je cause tout bas avec moi-même. Oui, Gaston, oui, un bon ami. Parbleu, mais puisque tu es mon frère, ah, tu n'es pas marié, eh bien, nous ferons ménage tous les deux. Nous allons vivre en garçon, en vieux garçon, heureux comme des dieux. Nous nous amuserons, nous ferons nos farces. Tiens, quelle idée, mais c'est toi qui me rajeunis. Il me semble que je n'ai plus que 20 ans, que je suis leste et vigoureux comme en ce temps où je traversais le Rhône à la nage. Et à longtemps de cela, pourtant, et depuis, j'ai lutté, j'ai souffert. J'ai cruellement vieilli, changé. Toi, interrompit Louis, mais tu as moins vieilli que moi. Oh, quelle plaisanterie! Mais je te le jure. Tu m'aurais reconnu? Mais parfaitement, tu es resté toi. Louis disait vrai. Il paraissait, lui, usé plutôt que vieilli. Mais Gaston, en dépit de ses cheveux gris, malgré son teint qui avait pris au soleil du Brésil des tons de brique, était bien l'homme robuste dans la force de l'âge, dans la pleine maturité de sa mâle beauté. « Mais comment m'as-tu retrouvé ?» demandait Gaston. « Quelle bonne pensée, quelle fée bienveillante t'a guidé jusqu'au seuil de ma maison ?»« Ben, c'est la Providence, répondit-il, qu'il faut remercier de notre réunion. » Il y a 3 jours, à mon cercle, un jeune homme qui arrive des Aubonnes me dit qu'il a ouï parler aux Pyrénées d'un marquis de Clameran. Oh, tu conçois ma surprise. Je me demande quel faussaire se permet de porter notre nom. Aussitôt, je cours au chemin de fer, je prends un billet, et me voilà. Tu ne pensais donc pas à moi, pauvre frère. Il y avait 23 ans que je te croyais mort. « Mort, moi ? Ah, ça, mademoiselle de la Verberie, Valentine, ne vous a donc pas fait savoir que j'étais sauvé ? Elle m'avait juré qu'elle irait trouver notre père. » Louis prit cet air navré d'un homme forcé bien malgré lui de révéler une lamentable vérité. « Hélas, murmura-t-il, nous nous a rien fait dire. » Une bouffée de colère passa comme l'éclair dans les yeux de Gaston. Peut-être l'idée lui vint-elle que Valentine avait été heureuse de se débarrasser de lui. « Rien ! » s'écria-t-il, « elle n'a rien dit. Elle a eu la barbarie de vous laisser pleurer ma mort, et elle a laissé mon vieux père mourir de chagrin. Ben, c'est qu'elle avait une peur terrible des progrès du monde, des propos du monde. Elle m'a sacrifié à sa réputation. » « Mais toi, interrompit Louis, pourquoi n'as-tu pas écrit ?»« Mais j'ai écrit dès que je l'ai pu. Et c'est par la fourcade que j'ai appris que notre père n'était plus et que tu avais abandonné le pays. J'ai quitté Clameran parce que je te croyais mort. » Gaston se leva et fit au hasard quelques pas dans la salon. Il voulait secouer la tristesse qui l'envahissait. « Basse ! » murmura-t-il, « pourquoi s'inquiéter de ce qui est passé ? Tous les souvenirs du monde, bons ou mauvais, ne valent pas la plus mince espérance. Et Dieu merci, l'avenir est à nous. » Louis se taisait. Il ne connaissait pas encore assez le terrain pour risquer une question. « Mais je suis là, que je bavarde, » reprit Gaston. « Je parle, et tu n'as peut-être pas dîné. » « Oh, t'avouerais que non. » « Et tu ne disais rien. » Mais moi non plus, je n'ai pas dîné encore. Pour le premier jour, j'allais te laisser mourir de faim. Oh, j'ai un certain vin du Cap. » Il se pendit aux sonnettes. En un moment, la maison fut sur pied, et une demi-heure plus tard, les deux frères s'asseyaient devant une table somptueusement servie. La conversation entre les deux frères devait être infinie. Gaston voulait savoir tout ce qui était arrivé après son départ. « Et Clamerand ? » demanda-t-il quand Louis finit. Louis hésita un moment. Devait-il ou non dire la vérité ?« Ben, j'ai vendu Clamerand, » dit-il enfin. « Même le château ? » ?»« Oui. » « Bon, je comprends cela, murmurait Gaston, quoi que moi, à ta place. Là ont vécu nos ancêtres, là est mort notre père. » Mais voyant qu'il attristait son frère, « Basta, c'est dans le cœur que vit le souvenir et non au milieu de vieilles pierres. Mais tel que tu me vois, je n'ai pas osé retourner en Provence. J'ai eu peur de trop souffrir en revoyant en face de Clamerand, le parc de la Verberie. Hélas, j'ai eu là les beaux, seuls beaux jours de ma vie. La physionomie de Louis s'éclairait. Cette certitude que Gaston n'était pas allé en Provence chassait une de ses plus pressantes inquiétudes. Si bien qu'à 2 heures du matin, les deux frères causaient encore. Et le lendemain, Louis trouvait un prétexte pour courir au télégraphe et il adressait à Raoul cette dépêche « Sagesse et prudence, suivre mes instructions, tout va bien, bon espoir. » Tout allait bien et cependant Louis, en dépit de ses questions habituellement calculées, n'avait obtenu aucun des renseignements qu'il était venu chercher. Gaston, si expansif, Gaston qui lui avait conté sa vie entière en insistant sur les moindres circonstances, n'avait pas dit un mot pouvant l'éclairer. Était-ce hasard ou calcul, préméditation savante ou simple oubli? Louis se le demandait avec ses inquiétudes des gens pervers, toujours disposés à gratifier les autres de leur perversité. À tout prix, et fallut-il se départir de sa réserve, il résolut d'en avoir le cœur net et de voir clair dans l'esprit de son frère. Le moment était favorable, il se mettait à table pour déjeuner. « Sais-tu, mon cher Gaston, commença-t-il, que jusqu'ici nous avons parlé de tout, sauf pourtant des choses sérieuses. Oh, diable ! Qu'y a-t-il donc que tu prends une mine de procureur ? Ben, il y a, mon cher frère, que te croyant mort, j'ai recueilli la succession de notre père. » Un froid éclat de rire de Gaston lui coupa la parole. Ben, c'est là ce que tu appelles des choses sérieuses. Ben, certainement, je te dois compte de ta part de l'héritage. Tu as droit à la moitié. J'ai droit, interrompit Gaston, de te demander en grâce de clore ce chapitre. Ce que tu as est à toi et à prescription. Non, je ne peux plus accepter. Quoi ? La succession de notre père ? Non seulement tu le peux, mais tu le dois. Notre père ne voulait qu'un héritier, ben, soumettons-nous à ses volontés. Et croyant apercevoir un nuage sur le front de son frère, non, mais ça, ajouta-t-il gaiement, « tu es donc bien riche ou tu me crois donc bien pauvre pour insister ainsi ?» Louis tressaillait imperceptiblement à cette question à bout portant. Que répondre pour ne point t'engager ?« Oh, je ne suis ni riche ni pauvre, » fit-il. « Moi, s'écria Gaston, « je serais presque ravi de te trouver plus pauvre que Job pour partager avec toi tout ce que j'ai. » Le déjeuner était terminé, Gaston jeta sa serviette et se leva en disant « Viens, allez, je vais toujours te faire visiter ma, enfin, c'est-à-dire notre propriété. » Tout en suivant son frère, Louis était aussi tourmenté que possible. Il lui semblait que Gaston fuyait avec une singulière obstination le terrain des confidences sur lequel il s'efforçait de l'attirer. Son abandon n'était-il donc qu'une comédie ? Les défiances de Louis se réveillaient. Il regrettait presque sa dépêche optimiste de la veille. Mais rien des pensées fâcheuses qui s'agitaient au-dedans de lui n'apparaissait à la surface. Sa figure était calme et souriante, sa voix joyeuse. Il lui fallut tout voir en détail, la maison d'abord, puis les servitudes, les écuries, le chenil, puis le jardin vaste et bien planté, au bout duquel le gave, sur son lit de cailloux, chantait sa chanson montagnarde. À l'extrémité d'une jolie prairie se trouvait l'usine en pleine activité. Gaston, qui en était encore aux enchantements d'un nouveau propriétaire, ne fit grâce à son frère ni d'une lime ni d'un marteau. Il lui disait ses projets futurs, comment il comptait substituer le bois à la houille, faire mieux et réaliser encore des économies en exploitant des richesses forestières jugées jusqu'alors impossibles à atteindre. Louis approuvait tout, il applaudissait, mais il ne répondait que par monosyllabes. « Ah oui, ah, en effet, oh, très bien !» C'est qu'une nouvelle douleur, qu'il lui fallait dissimuler comme les autres, le torturait maintenant. Cette prospérité dont l'évidence sautait aux yeux le désolait. Comparant au sien le sort de son frère, tous les aiguillons empoisonnés de la jalousie déchiraient son âme envieuse. Il voyait Gaston, riche, heureux, honoré, recueillant le prix de son courage, tandis que lui... Jamais il n'avait si cruellement ressenti l'horreur d'une situation qui était son œuvre. À 20 ans de distance, les sentiments honteux et vils qui lui avaient fait haïr son frère revenaient. Cependant, l'inspection était terminée. « Alors, que dis-tu de mes acquisitions ?» demanda joyeusement Gaston. « Eh bien, je dis, cher frère, que tu possèdes au milieu du plus beau pays du monde la plus ravissante propriété qui puisse tenter un pauvre Parisien. Est-ce vraiment ta pensée ? Sans restriction. » Gaston eut un geste de joie et une exclamation de triomphe. « Eh bien, frère, s'écria-t-il, cette propriété est à nous puisqu'elle est à moi. Elle te plaît, ben ne la quitte plus. Tiens-tu vraiment à ton Paris brumeux, mais établis-toi ici, sous ce beau ciel du Béarn. » Louis se taisait. Ses propositions, il y a un an, l'auraient rempli de joie. Avec quel transport il aurait accueilli les perspectives de cette belle et large existence. Quel repos délicieux après tant de traverses. Il aurait pu sans crainte dépouiller le vieil homme, l'aventurier, et redevenir soi. Mais il ne pouvait accepter maintenant, et il le reconnaissait avec rage. Non, il n'était pas libre, non, il ne pouvait pas quitter Paris. Il avait là-bas engagé une de ces affreuses parties qu'on perd quand on les abandonne, et dont la perte peut conduire au bagne. Seul, il eût pu disparaître, mais il n'était pas seul, il avait un complice. « Tu ne réponds rien, » insistait Gaston, surpris de ce silence. « Tu verrais quelque obstacle à mes projets ? Aucun. Eh bien alors ? Mais il y a, cher frère, que sans les émoluments d'une position que j'occupe à Paris, je n'aurai pas de quoi vivre. Et c'est là ton objection, à toi qu'il n'y a qu'une minute, m'offrais la moitié de l'héritage paternel. Louis, c'est mal, c'est très mal. Ou tu ne m'as pas compris, ou tu es un mauvais frère. » Louis baissait la tête. Gaston, bien involontairement, tournait et retournait le poignard dans la plaie. « Mais je te serais à charge, » murmurait Louis. « À charge, mais tu deviens fou. Ne t'ai-je pas dit que j'étais très riche ? T'imaginerais-tu avoir vu tout ce que je possède ? Cette maison et l'usine ne constituent pas le quart de ma fortune. Je les ai eus pour un morceau de pain. Crois-tu donc que sur une entreprise pareille, je risquerai ce que j'ai gagné en 20 ans. J'ai bel et bien sur l'État 24 000 livres de rente. Et ce n'est pas tout. Il paraît que mes concessions du Brésil se vendront. J'ai de la chance. Déjà, mon correspondant m'a fait tenir 400 000 francs. Louis tressaillit de plaisir. Enfin, il allait savoir jusqu'à quel point il était menacé. « Quel correspondant ? » demanda-t-il de l'air le plus désintéressé qu'il put prendre. « Parbleu, mon ancien associé de Rio. Les fonds sont à 7 heures à ma disposition, chez mon banquier de Paris. » Ah oui, un de tes amis? Non, pas ma foi, non. Il m'a été indiqué par mon banquier de Pau et recommandé comme un homme fort riche, prudent et d'une probité notoire. C'est un nommé Fauvel, qui demeure rue de Provence. » Si maître de soi que fut Louis, si préparé qu'il fut à ce qu'il allait entendre, il pâlit et rougit visiblement. Mais Gaston, tout à ses idées, ne s'en aperçut pas. « Connais-tu ce banquier ? » demanda-t-il. « De réputation, oui. » « Alors, nous ferons ensemble très prochainement sa connaissance, car je me propose de t'accompagner à Paris lorsque tu retourneras y arranger des affaires avant ton établissement ici. » À cette annonce inattendue d'un projet dont la réalisation devait le perdre, Louis eut la force de rester impassible. Il sentait le regard de son frère arrêté sur lui. « Tu viendras à Paris, fit-il, toi ? » Mais certainement, qu'y a-t-il là d'extraordinaire ? Oh, rien. Bon, je déteste Paris, et je le déteste sans jamais y être allé, ce qui est plus fort. Mais j'y suis appelé par des intérêts, par des devoirs sérieux. Enfin, mademoiselle de la Verberie habite Paris, m'a-t-on dit, et je veux la revoir. Ah ? Gaston réfléchissait, il était ému et son émotion était visible. « À toi, Louis, reprit-il, je puis dire pourquoi je veux la revoir. Je lui ai autrefois confié les parures de notre mère. »« Ah oui, tu veux, après 23 ans, lui réclamer ce dépôt ?»« Oui, ou plutôt, tiens, non. Ce n'est là qu'un vain prétexte dont j'essaye de me payer moi-même. » Je veux la revoir parce que je l'ai aimée, voilà la vérité. Mais comment la retrouver ? Oh, c'est bien simple. Le premier venu dans le pays me dira le nom de son mari, et quand je saurai ce nom... Tiens, dès demain, j'écrirai à Beaucaire. Louis ne répondit pas. Avant tout, Louis se gardait de discuter les projets de son frère. Combattre les intentions d'un homme, c'est presque toujours les enfoncer plus profondément dans son esprit. Chaque argument fait l'effet d'un coup de marteau sur un clou. En homme habile, il détourna la conversation, et de la journée, il ne fut plus question de Paris ni de Valentine. C'est le soir seulement, lorsqu'il se trouva seul dans sa chambre, que se posant résolument en face de la situation, Louis commença à l'étudier sous tous ses aspects. Au premier abord, elle paraissait désespérée. Acculé dans une position qui lui paraissait sans issue, il était prêt de se résigner à cesser de lutter, à se rendre. Oui, il se demandait s'il ne serait pas sage d'emprunter une grosse somme à son frère et de disparaître pour toujours. Vainement, il se mettait l'esprit à la torture. Sa détestable expérience ne lui représentait aucune combinaison applicable aux circonstances présentes. De tous les côtés à la fois, le danger menaçait, pressant, impossible à conjurer. Il avait à craindre également et Madame Fauvel, et sa nièce, et le banquier. Gaston, en découvrant la vérité, voudrait se venger. Raoul lui-même, son complice, devait, en cas de malheur, se tourner contre lui et devenir son plus implacable ennemi. Mais existait-il un moyen humain pour empêcher la rencontre de Valentine et de Gaston ? Évidemment non. Or, l'instant de leur réunion devait être l'instant de sa perte. C'est en vain, murmura-t-il, que je cherche. Il n'y a rien à faire, rien qu'à gagner du temps, rien qu'à guetter une occasion. La chute du cheval acclamant disait sans doute ce que Louis entendait par une occasion. Il referma sa fenêtre, se coucha, et si grande était son habitude du danger qu'il s'endormit. Nul pli sur son front au matin ne révélait son angoisse de la nuit. Il fut affectueux, gai, causeur, bien plus qu'il ne l'avait été jusqu'alors. Il voulut monter à cheval et courir le pays. Devenu tout à coup aussi remuant qu'il s'était montré calme, il ne parlait que d'excursions dans les environs. La vérité est qu'il voulait occuper Gaston, l'amuser et détourner son esprit de Paris et surtout de Valentine. Avec le temps, en y mettant beaucoup d'attresse, il ne désespérait pas de dissuader son frère de revoir son ancien ami. Il comptait lui démontrer que cette entrevue, absolument inutile, serait pénible pour tous les deux, embarrassante pour lui et dangereuse pour elle. Quant au dépôt, si Gaston persistait à lui demander, eh bien, Louis avait l'intention de s'offrir pour cette démarche délicate. Il promettait de l'amener à bien, et en effet, il savait où étaient les parures. Mais il ne devait pas tarder à reconnaître l'inanité de ses espérances et de ses tentatives. « Ah, tu sais, lui dit un jour Gaston, j'ai écrit. » Louis ne savait que trop ce dont il s'agissait. N'était-ce pas là le sujet habituel de ses méditations? Il prit cependant son air le plus surpris. « Écrit ? » interrogea-t-il. « Où, à qui, pourquoi ?»« Ben, à Beaucaire, à la Fourcade, pour savoir le nom du mari de Valentine. »« Ah, tu penses donc toujours à elle ? » ?»« Et toujours. » Tu ne renonces pas à la revoir, mais moins que jamais. Hélas, frère, c'est que tu ne réfléchis pas que celle que tu aimais est la femme d'un autre, qu'elle est mère de famille, sans doute. Consentira-t-elle à te revoir? Sais-tu si tu ne vas pas troubler sa vie, si tu ne te prépares pas les plus cuisants regrets? Bon, je suis fou, c'est vrai, je le sais, mais ma folie m'est chère. Il dit cela d'un tel accent que Louis comprit bien que son parti était irrévocablement arrêté. Cependant, il resta le même, ne s'occupant en apparence que de parties de plaisir, et en réalité passant sa vie à s'inquiéter des lettres qui arrivaient à la maison. Il savait au juste à quelle heure passait le facteur, et toujours il se trouvait par hasard dans la cour pour le recevoir. S'il était absent, ainsi que son frère, il savait à quelle place on mettait les lettres venues dans la journée, et il y courait. Sa surveillance ne fut pas inutile. Le dimanche suivant, parmi les lettres que lui remit le facteur, il en distingua une qui portait le timbre de Beaucaire. Rapidement, il la glissa dans sa poche, et bien qu'il fût sur le point de monter à cheval avec son frère, il trouva un prétexte pour aller à sa chambre, incapable qu'il était de mépriser son impatience. C'était bien la lettre attendue. Elle était signée La Fourcade. Elle avait 3 bonnes pages et contenait une foule de détails absolument indifférents à Louis, mais voici ce qu'elle disait de Valentine. Le mari de Mademoiselle de la Verberie est un banquier très considéré nommé André Fauvel. Je n'ai pas l'honneur de le connaître, mais je pense aller le voir à mon prochain voyage à Paris. J'ai conçu un projet qui serait la fortune de notre pays, et je me propose de le lui soumettre, et s'il le juge bon, je solliciterai l'appui de ses capitaux. Vous ne trouverez pas mauvais, je l'espère, que je me recommande de votre nom. Louis tremblait comme un homme qui vient d'échapper à un immense danger. Cette lettre entre les mains de mon frère, murmurait-il, « Oh, je n'avais qu'à filer !» Mais sa perte pour être retardée n'en paraissait pas moins certaine. Gaston attendrait une réponse pendant une huitaine encore, puis il écrirait de nouveau. La Fourcade, tout surpris, répondrait sur le champ, et c'était en mettant tout au mieux une douzaine de jours que Louis avait encore devant lui. Et là, se disait-il, là est le plus pressant danger. Que cet imbécile aille à Paris, qu'il prononce le nom de Clamerand devant le banquier, et tout est fini. En bas, Gaston s'impatiente. Et viens-tu ? Cria-t-il à son frère. Oh, je descends, répondit Louis. Il descendait en effet, après avoir serré dans un compartiment secret de la malle la lettre de la Fourcade. Désormais, il était décidé à un emprunt. Ayant une bonne somme en poche, jointe à ce qu'il possédait déjà, il passerait en Amérique, et ma foi, Raoul se tirerait d'affaire comme il pourrait. Certes, il était désolé de voir manquer la plus belle combinaison qu'il eût imaginée en sa vie, mais l'homme fort ne s'indigne pas sottement contre la destinée. Il tire des événements le meilleur parti possible. Dès le lendemain même, se promenant à la tombée de la nuit avec Gaston sur la jolie route qui mène de l'usine à Oloron, il entama le prologue d'une petite histoire dont la conclusion devait être un emprunt de 200 000 francs. Ils allaient doucement, se donnant le bras, lorsqu'à 1 kilomètre environ de la forge, ils croisèrent un tout jeune homme, vêtu comme les ouvriers qui font leur tour de France, qui en passant les salua. Une commotion si terrible secoua Louis que Gaston en reçut le contre-coup. « Mais qu'as-tu ? » demanda-t-il tout étonné. « Bon, oui, j'ai heurté du bout du pied une pierre qui m'a fait mal. » Il mentait, et le tremblement de sa voix eût dû le dire à Gaston. S'il était si ému, c'est que dans ce jeune ouvrier, il avait reconnu Raoul de Lagore. Dès ce moment, Louis de Clamerand fut anéanti. La surprise, une épouvante instinctive, paralysée, anéantissait absolument sa verve audacieuse et parleuse. Il n'était plus à la conversation. Il disait « Oui, oh, en effet, vraiment, oh, peut-être. » mais sans avoir conscience de ce qu'il disait. Comment Raoul se trouvait-il à Oloron ? Mais qui venait-il faire ? Pourquoi se cachait-il sous un bourgeron d'ouvrier ? Depuis qu'il était à Oloron, Louis avait écrit presque tous les jours à Raoul, et il n'en avait pas reçu de réponse. Ce silence, que tout d'abord il avait trouvé naturel, il le jugeait maintenant extraordinaire, inexplicable. Heureusement, Gaston se sentait fatigué ce soir-là. Il parla de rentrer bien plus tôt que d'habitude, et dès qu'il fut de retour à la maison, il regagna son appartement. Louis était libre enfin. Il alluma un cigare et sortit, disant au domestique de ne pas l'attendre. Il savait bien que Raoul, si c'était lui toutefois, devait rôder autour de la maison et guetter sa sortie. Ses prévisions ne le trompaient pas. Il avait à peine fait 100 pas sur la route qu'un homme sortit brusquement d'un taillis et vint se planter devant lui. La nuit était fort claire. Louis reconnut Raoul. « Mais qu'y a-t-il » demanda-t-il aussitôt, incapable de maîtriser son impatience. « Qu'est-ce qui est arrivé ?»« Oui, hein ?» « Quoi, la position là-bas n'est pas menacée ?»« Non, en aucune façon. Je te dirai plus. Sans tes ambitions démesurées, tout irait au mieux. » Louis eut une exclamation, il faudrait dire presque un rugissement de fureur. « Alors, s'écria-t-il, mais qu'est-ce que tu viens faire ici, qui t'a permis d'abandonner ton poste au risque de nous perdre ?»« Oh, ça, fit Raoul le plus tranquillement du monde, c'est mon affaire. » D'un geste brusque, Louis saisit les poignets du jeune homme et les serrant à le faire crier. « Tu vas t'expliquer, lui dit-il, de cette voix rauque et brève que donne l'imminence du danger. Tu vas me dire les raisons de ton étrange caprice. » Sans effort apparent, avec une vigueur dont jamais on ne l'eût soupçonné capable, Raoul se dégagea de l'étreinte de Louis. « Mais doucement, hein, prononça-t-il, du ton le plus provoquant. Je n'aime pas être brusqué. Et j'ai de quoi te répondre. » En même temps, il sortait à demi de sa poche et montrait un revolver. « Mais tu vas te justifier, insista Louis, sinon... »« Sinon quoi ?»« Bon, renonce donc une fois pour toutes à l'espoir de me faire peur. » « Je veux bien te répondre, mais pas ici, au milieu de ce grand chemin, et par ce clair de lune. Sais-tu si on ne nous observe pas ? Allons, viens !» Ils franchirent le fossé qui borde la route et s'éloignèrent à travers champs, sans se soucier des plants de maïs qu'ils foulaient aux pieds. « Maintenant, commença Raoul, quand ils furent à une assez grande distance de la route, je puis, mon cher oncle, te dire ce qui m'amène. » J'ai reçu tes lettres et je les ai lues et relues. Tu as voulu être prudent, je comprends ça, mais tu as été si obscur en même temps que je ne t'ai pas compris. De tout ce que tu m'as écrit, un seul fait ressort clairement. Nous sommes menacés d'un grand danger. Des raisons de plus, malheureux, pour veiller au grain. Puissamment raisonné, seulement, oncle cher et vénéré, avant de braver le péril. Je tiens à savoir quel il est. Je suis homme à m'exposer, mais j'aime à savoir quel risque je cours. Mais ne t'ai-je pas dit d'être tranquille ? Raoul, ce geste narquois du gamin de Paris raillant la crédulité naïve de quelques bons bourgeois. Alors, fit-il, je dois avoir en toi, cher oncle, pleine et entière confiance. Certainement. Tes doutes sont absurdes après ce que j'ai fait pour toi. Qui donc est allé te chercher à Londres, où tu ne savais que devenir ? Moi ? Qui donc t'a donné un nom et une famille à toi, qui n'avait ni famille ni nom ? Encore moi ? Et qui travaille en ce moment, après t'avoir assuré le présent, à te préparer un avenir ? Mais moi ? Toujours moi ? Pour bien écouter, Raoul avait pris une pause grotesquement sérieuse. « Superbe !» interrompit-il. « Magnifique, splendide !»« Et pourquoi, pendant que tu y es, ne me trouves-tu pas que tu étais sacrifié pour moi ? Tu n'avais nul besoin de moi, n'est-ce pas, lorsque tu es venu me chercher ? Alors va, démontre-moi que tu es le plus généreux et le plus désintéressé des ongles. » Tu demanderas le prix Montyon et j'apostillerai ta demande. » Clamant se taisait, il redoutait les entraînements de sa colère. « Bien, reprit Raoul, sont là les enfantillages, cher oncle. Si je suis venu, c'est que je te connais. C'est que j'ai en toi juste la confiance que j'y dois avoir. S'il te paraissait avantageux de me perdre, tu n'aurais pas une seconde d'hésitation. » En cas de danger, tu te sauverais seul et tu laisserais ton neveu chéri se débrouiller à sa guise. Oh non, non, ne proteste pas. C'est tout naturel et à ta place j'en ferais autant. Seulement note bien ceci. Je ne suis pas de ceux qu'on joue impunément. Et sur ce, laissons là les récriminations inutiles et mets-moi au fait. Avec un tel complice, il fallait compter et Louis le comprit. Loin de se révolter, il raconta brièvement et clairement les événements survenus depuis qu'il était près de son frère. Il fut presque franc sur tous les points, sauf cependant en ce qui concerne la fortune de son frère, dont il diminua l'importance autant que possible. Quand il eut terminé, « Eh bien, fit Raoul, nous sommes dans de beaux draps. » Et tu espères t'en tirer, toi ? Oui, si tu ne me trahis pas. Je n'ai encore jamais trahi personne, entends-tu, marquis ? Seulement, comment t'y prendras-tu ? Bon, je ne sais, mais je sens que je trouverai un expédient. Bon, je le trouverai, il le faut. Tu peux, tu le vois, repartir tranquille. Tu ne cours aucun risque à Paris, tandis que moi, ici, je surveillerai Gaston. » Raoul réfléchissait. « Aucun risque, fit-il tant, es-tu bien sûr ?»« Parbleu, nous tenons trop bien Madame Fauvel pour que jamais elle ose élever la voix contre nous. Elle saurait la vérité, la vraie, celle que toi et moi savons seuls, qu'elle se tairait encore, trop heureuse d'échapper au châtiment de sa faute passée, au blâme du monde, au ressentiment de son mari. » C'est vrai, répondit Raoul, devenu sérieux. Nous tenons ma mère aussi, n'est-ce pas, elle que je redoute. Et qui alors ? Ben, une ennemie de ta façon, ô mon respectable oncle. Une ennemie implacable, Madeleine. Clamerand eut un geste de dédain. Oh, cela, fit-il. Tu la méprises, n'est-ce pas, interrompit Raoul, avec l'accent d'une conviction profonde. Eh bien, tu te trompes. Elle s'est dévouée au salut de sa tante, mais elle n'a pas abdiqué. Elle a promis de t'épouser et la congédier Prosper, qui est en train de mourir de douleur. C'est vrai, mais elle n'a pas renoncé à tout espoir. Tu la crois faible, peureuse, naïve, n'est-ce pas ? Erreur ! Elle est trop forte. Elle est capable des plus audacieuses conceptions. Le malheur lui donnera l'expérience. Elle aime, mon oncle, et la femme qui aime défend son amour, comme une tigresse ses petits. Là est le péril. Mais à 500 000 francs de dot, c'est vrai, et à 5%, c'est 12 500 francs chacun, n'importe. Sage, tu renoncerais à Madeleine. Oh, jamais, entends-tu, s'écria Clamant, jamais. Riche, je l'épouse. Pauvre, je l'épouserai encore. Ce n'est pas sa dot que je veux à cette heure. C'est elle, Raoul, elle seule, je l'aime. Raoul parut étourdi de la brusque déclaration de son oncle. Il recula de 3 pas, levant les bras au ciel avec tous les signes d'une surprise immense. « Est-ce possible ? » répétait-il. « Tu aimes Madeleine, toi ? Toi ?»« Oui, » répondit Louis d'un ton soupçonneux. « Qu'est-ce que tu vois là de si extraordinaire ?» Rien, assurément rien. Seulement, cette belle passion m'explique les surprenantes variations de ta conduite. Ah, tu aimes Madeleine. Alors, oncle vénéré, nous n'avons plus qu'à nous rendre. Et pourquoi, s'il te plaît ? Parce que, mon oncle, quand on a le cœur pris, on perd la tête. C'est un axiome banal. Les généreux amoureux ont toujours perdu leur bataille. Un jour viendra fatalement où, épris de Madeleine, tu nous vendras pour un sourire. Et elle est notre ennemie, et elle est fine, et elle nous guette. D'un éclat de rire trop bruyant pour être bien sincère, Louis interrompit son neveu. Mais comme tu prends feu tout à coup, dit-il, tu la hais donc bien, cette belle, cette ravissante Madeleine ? C'est elle qui nous perdra. Oh, sois franc. « Es-tu bien sûr de ne la pas aimer ?» Si clair que fut la nuit, Louis ne put voir le mouvement de colère qui contracta les traits de Raoul. « Oh, je n'ai jamais aimé que la dot !» répondit-il. « Alors de quoi te plains-tu ? Ne t'en dois-je pas la moitié de cette dot ? Tu auras l'argent sans la femme, les bénéfices sans les charges. » « Je n'ai pas 50 ans passés, moi, » fit Raoul avec une séance de fatuité. « Assez, » interrompit Louis. « Il a été convenu, n'est-ce pas, le jour où je suis allé t'arracher à la plus affreuse des misères, que je resterai le maître. »« Ah, pardon, tu oublies que ma vie ou ma liberté, à tout le moins, est sur le jeu. Tiens les cartes, mais laisse-moi te conseiller. » Longtemps encore, les deux complices restèrent à étudier et à discuter la situation, et il était plus de minuit lorsque Louis songea qu'en s'attardant davantage, il risquerait de s'attirer des questions embarrassantes. Ne raisonnons pas dans le vide, dit-il à Raoul. Je suis de ton avis, les choses sont telles qu'il est urgent de prendre un parti. Mais je ne sais pas me décider au pied levé. Demain, à 7 heures, sois ici, j'aurai arrêté notre plan. Soit, à demain, et pas d'imprudence d'ici là. Oh, mon costume, ce me semble, doit te dire assez que je ne tiens pas à me montrer. J'ai arrangé à Paris un alibi si ingénieux que je défie qui que ce soit de prouver, judiciairement parlant, que j'ai quitté ma maison du Vésinet. J'ai poussé les précautions si loin que j'ai voyagé en 3e et on y est terriblement mal. Alors adieu, je regagne mon auberge. Il s'éloigna sur ces mots sans paraître se douter qu'il venait d'éveiller dans le cœur de son complice bien des soupçons. Pendant le cours de sa vie aventureuse, Clamerand avait assez organisé d'affaires pour savoir au juste quelle somme de confiance on doit accorder à des complices tels que Raoul. Les coquins ont leur probité à eux, c'est connu. D'aucuns la mettent bien au-dessus de celle des honnêtes gens, mais cette probité n'est jamais après le coup ce qu'elle était avant. C'est au moment du partage que les difficultés surgissent. L'esprit défiant de Clamerand entrevoyait déjà 1000 sujets de crainte et de querelle. Et pourquoi, se demandait-il, Raoul s'est-il si soigneusement caché pour venir ici? Pourquoi cet alibi à Paris? Me tendrait-il un piège? Je le tiens, c'est vrai, mais de mon côté, je suis absolument à sa merci. Toutes ces lettres que je lui écris depuis que je suis chez Gaston sont autant de preuves contre moi. Songerait-il à se révolter, à se débarrasser de moi, à recueillir seul les profits de notre entreprise? Cette nuit encore, Louis ne ferma pas l'œil. Mais au matin, sa résolution était prise, et c'est avec une fébrile impatience qu'il attendit le soir. Si puissant était son désir d'en finir, si vive était la tension de sa pensée, qui ne put réussir à être ce jour-là ce qu'il était les autres jours. À plusieurs reprises, son frère, le voyant sombre et préoccupé, lui demanda « Qu'as-tu? Es-tu souffrant? Me cacherais-tu quelque inquiétude ?» Enfin, le soir vint, et Louis put rejoindre Raoul, qu'il trouva étendu sur l'herbe et fumant dans ce champ où il s'était entrevu la nuit précédente. « Eh bien, » demanda Raoul en se levant, « es-tu enfin décidé ?»« Oui, oui, j'ai 2 projets dont je crois le succès infaillible. »« Je t'écoute. » Louis parut réfléchir en homme qui veut présenter sa pensée le plus clairement et le plus brièvement possible. « Mon premier plan, commença-t-il, dépend de ton acceptation. » « Que dirais-tu si je te proposais de renoncer à l'affaire ? Oh ! Consentirais-tu à disparaître, à quitter la France, à retourner à Londres si je te donnais une forte somme ? Encore faut-il la connaître, cette somme. Je puis te donner 150 000 francs. » Raoul haussa les épaules. « Oncle respecté, dit-il, oh, je vois avec douleur que tu ne me connais pas, ou pas du tout. Tu ruses avec moi, oh, tu dissimules, et ce n'est ni généreux ni adroit. Ce n'est pas généreux parce que c'est trahir nos conventions, et ce n'est pas adroit parce que, mets-toi bien cela dans la tête, je suis aussi fort que toi. Je ne te comprends plus. Tant pis, je m'entends moi, cela suffit. « Oh, je te connais, mon oncle, je t'ai étudié avec les yeux de l'intérêt, qui sont bons. J'ai tâté le fond de ton sac. Si tu m'offres ainsi 150 000 francs, c'est que tu as la certitude de renfler 1 million. » Clamerand essaya le geste de protestation indigné d'un honnête homme méconnu. « Mais tu déraisonnes, essaya-t-il. Au point, C'est d'après le passé que je juge l'avenir. Des sommes arrachées à Madame Fauvel, contre mon gré souvent, qu'ai-je reçu ? La dixième partie, à peine. Mais nous avons un fonds de réserve. Oui, qui est entre tes mains, cher oncle, c'est très vrai. De telle sorte que si demain la mèche était éventée, tu sauverais la caisse et que moi, faute d'argent, j'irais faire un tour en police correctionnelle. Ces reproches parurent désoler Louis. Ingrat, murmura-t-il, ingrat que tu es. Bravo, reprit Raoul, tu as bien dit ce mot. Mais trêve de sornette, veux-tu que je te prouve que tu me trompes ? Si tu le peux, soit. Tu m'as dit que mon frère, ton frère n'avait qu'une modeste aisance, n'est-ce pas ? Eh bien, Gaston a 60 000 livres de rente au bas mot. Ne dis pas. Que vaut sa propriété ici ? 100 000 écus. Et combien en a-t-il chez M. Fauvel ? 400 000 francs. Total, 700 000 francs. Est-ce tout ce qu'il possède ? Non. Car le receveur particulier de Laurent a été chargé de lui acheter des rentes. Tu vois que j'ai pas perdu ma journée. C'était si net, si précis, que Louis n'essaya pas de répondre. Que diable, poursuivait Raoul, quand on se mêle de commander, on devrait bien tâter ses forces. Tu as eu, nous avons eu, entre les mains, la plus belle partie du monde. Et qu'en as-tu fait ? Il me semble quoi qu'elle est perdue. C'est aussi mon avis. Et par ta faute, par ta très grande faute. On ne commande pas aux événements. Si, quand on est fort. Les imbéciles attendent le hasard. Les habiles le préparent. Qu'avait-il été convenu quand tu es venu me chercher à Londres ? Nous devions prier gentiment ma chère mère de nous aider un peu et être charmant avec elle si elle s'exécutait de bonne grâce. Et qu'est-il arrivé, cependant ? Au risque de tuer la poule aux œufs d'or, tu m'as fait si bien tourmenter la pauvre femme qu'elle ne sait plus où donner de la tête. Mais elle était prudente d'aller vite, soit. Mais est-ce aussi pour aller plus vite que tu t'es mise en tête d'épouser Madeleine ? Ce jour-là, il a fallu la mettre dans le secret. Et depuis, elle soutient et conseille sa tante. Elle l'anime contre nous. Elle lui ferait tout avouer à M. Fauvel, ou tout compter au préfet de police, que j'en serais pas bien surpris. Mais je l'aime. Oui, oui, tu me l'as déjà dit. Mais tout ceci n'est rien. Tu nous embarques dans une affaire sans l'avoir étudiée, sans la connaître. Il n'y a que les niais, mon oncle, qui, après une faute, se contente de cette banale excuse. Oh, si j'avais su. Il fallait t'informer. Que m'as-tu dit ? Ton père est mort. Pas du tout, il vit. Et nous avons agi de telle sorte que je ne puis me présenter chez lui. Il a 1 000 000 qu'il m'aurait donné, et je n'en aurais pas un sou. Et il va chercher sa Valentine et il la retrouvera. Et alors, bonsoir. D'un geste brusque, Louis interrompit Raoul. Assez, commanda-t-il. Si j'ai tout compris, j'ai un moyen sûr pour tout sauver. Oh, toi, un moyen, lequel est-il ? Oh, cela, fit Louis d'une voix sombre, c'est mon secret. Louis et Raoul se turent pendant plus d'une minute. Et ce silence entre ces deux hommes, en cette place, au milieu de la nuit, après la conversation qu'ils venaient d'avoir, fut si affreusement significatif que tous deux frissonnèrent. Une abominable pensée leur était venue en même temps, et sans un mot, sans un geste, ils s'étaient compris.